Je me souviens avoir lu, moi aussi, hein, non pas Timothée Keller, mais un de nos regrettés pasteurs baptistes, hein, Lucien Clerc, hein, qui avait d'ailleurs écrit un petit livre d'anecdotes pour mettre un peu d'humour dans les propos des pasteurs. On pourrait presque, comme au temps de Luther, où il y avait des propos de table, le ranger dans la catégorie propos de table. C'est l'histoire d'un pasteur qui est invité par son conseil d'église à expliquer aux enfants de 6 à 9 ans la Pentecôte. Alors nous, pasteurs, nous aimons obéir à la collégialité, y compris quand nos conseils d'église nous disent « Pasteur, on croit que tu devrais enseigner à tel ou tel enseignement. » Alors, il s'exécute et pour introduire son propos, il dit « Les enfants, qui parmi vous a déjà entendu parler de la Pentecôte ?» J'ose pas vous faire la même chose parce que je ne voudrais pas vous infantiliser. À juste titre, vous m'en voudriez. Alors bien sûr, des mains se lèvent, nous sommes dans une église et il y a là des enfants de chrétiens et puis aussi des enfants de celles et ceux qui ne sont pas encore chrétiens qui découvrent. Et puis le premier à lever la main, c'est un petit garçon qui s'appelle Rémi. Est-ce qu'il y a un parent d'un petit Rémi ici? Ça n'a rien à voir avec le petit Rémi. Alors Rémi, et Rémi lui répond, ben c'est tout simple. Mais dis-moi donc, Pentecôte, ça monte et ça descend et ça monte. Nos enfants sont ingénieux, surprenants et même déroutants, comme le montre l'exemple de Rémi. Mais il n'a pas tout faux. Pentecôte, ça descend et ça monte. Et ça monte et ça descend. Ça, sans l'incarnation, Jésus est descendu au milieu de nous. Et la Bible nous dit qu'il s'est fait homme et serviteur. Il a pris et assumé cette condition jusqu'au bout. Notre frère Jean nous a rappelé le texte d'Ésaïe annonçant justement le ministère de Jésus comme celui du serviteur du Seigneur, homme de douleur habitué à la souffrance. Il est descendu jusqu'au séjour des morts. Et nous l'avons vu il y a quelques semaines, par la puissance de Dieu le Père, le Fils mort est revenu à la vie. Et pendant 40 jours, il a voulu que ses disciples soient consolés en se rendant présents à eux, témoignant de la réalité objective et historique que le mort est revenu à la vie. Et puis, ça monte. Il a été enlevé du milieu d'eux. Il est monté au ciel. Les yeux d'Étienne sur terre, premier martyr de l'Église, dans le récit des Actes des Apôtres, le voit debout. Il revient bientôt. Mais avant, il ne nous laisse pas orphelins, comme il avait promis à ses disciples. Le Père qui a promis et le Fils qui est maintenant auprès du Père envoie une effusion de l'Esprit Saint sur la communauté des croyants. Il descend. Rémi n'avait pas tout faux. C'est simple. Ça descend et ça monte et ça descend encore. Luc, et nous allons essentiellement parler un peu de la Pentecôte à travers l'œuvre de Luc, nous rappelle dans ce passage du chapitre 24 de son évangile, verset 49, on peut laisser celui-ci aussi. Luc, qui est l'auteur de l'évangile du même nom et l'auteur aussi du livre des Actes, qui en constitue d'une certaine façon le second volume, rappelle cette histoire qui se passe entre la résurrection de notre Seigneur et Pentecôte. Il y a un entre-deux où les disciples sont invités d'abord à rester à Jérusalem. « Quant à moi, dit le Christ, Luc 24, 49, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Quelle est donc la nature de cette puissance d'en haut? Luc va le rappeler au chapitre 1 donc du livre des Actes des Apôtres, verset 8. C'est le Saint-Esprit dont parle Jésus. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance, dunamis, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Mes amis, la fête de Pentecôte que nous commémorons aujourd'hui rappelle 50 jours après la résurrection, et d'ailleurs, Pentecôte est une translittération du grec Pentecoste, 50e. D'où ce nom Pentecôte, 50 jours après la résurrection, la réalisation de la promesse, l'effusion du Saint-Esprit sur la communauté des disciples de Jésus, envoyés à leur tour dans le monde, non pas pour impressionner le monde, mais pour témoigner au cœur du monde des merveilles de Dieu. Alors ce matin, la question à laquelle je vais tenter d'apporter quelques éclairages, c'est quelle est la portée de ce don pour les disciples de Jésus dont nous sommes nous aussi aujourd'hui? Quelle est la portée de ce don? Avant d'aller plus loin, je vous propose de relire ensemble le texte du livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 13. Nous lisons dans la version de la Bible du Semeur que j'ai choisie. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem. En attendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes Juifs de naissance et ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Il n'en revenait pas. Plongé dans la plus grande perplexité, il se demandait entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. Arrêtons-nous jusqu'ici à cette lecture qui, bien sûr, se prolonge par l'explication, prédication de l'apôtre Pierre. Alors, l'événement qui vient de nous être restitué ici par Luc fait écho à plusieurs autres événements bibliques et j'aimerais commencer par le tout premier, celui d'ailleurs, qui a été remarqué par les spécialistes depuis longtemps. Je n'invente rien. Voyant les correspondances entre la Pentecôte et le récit de la construction de la tour de Babel qu'on trouve en Genèse 11. Pentecôte, un anti-Babel. Je ne vais pas relire ici le texte, mais je vous invite à prendre note pour relire, si vous le souhaitez, le chapitre 11 du récit de la Genèse. Mais j'en rappelle ici quelques éléments structurants de ce récit autour de trois petits points que vous avez là affichés. D'abord, l'entreprise humaine. Le récit souligne l'unité de langage à Babel, mise au service de l'unité d'un projet de construction humaine, celle d'une tour-temple, d'une ziggourate, dont le sommet vise à atteindre le ciel. Projet ambitieux, projet fédérateur d'une dynamique humaine, manifestant la volonté de s'arroger une prérogative divine, symbolisée par le désir exprimé de se faire un nom. C'est pour moi un des symptômes de cette illusion de la toute-puissance humaine qui serait auto-créatrice. Et cette toute-puissance humaine, cela nous a été rappelé par Enzo la semaine dernière, prend sa source dans la prétention originelle de l'être humain à être comme Dieu. Péché des origines, péché originant tous les autres. Le deuxième aspect du récit de Babel, c'est le constat divin et les prévisions du danger. Dieu ne se désintéresse pas au projet des hommes et des femmes qui sont ses créatures. Il ne se désintéresse pas à nos ambitions. Et l'ambition humaine est si géniale. L'édifice qui en est sorti est si élevé que le Dieu du ciel doive descendre pour s'en rendre compte. Vous l'avez bien compris, le récit n'est pas seulement piquant d'humour. Il voulait construire, comme à Dubaï ou ailleurs, un édifice phare de toute la technologie, de toute la science, de toute la puissance du génie humain, jusqu'à toucher le ciel. C'est-à-dire jusqu'à être en communion avec les corps célestes, les étoiles, n'oublions pas le contexte de l'époque. C'est pour ça que c'est une tour-temple. Mais ce n'était pas le projet de Dieu de laisser l'humanité aller dans ce culte idolâtre. Dieu, la tour est si haute que Dieu doit s'abaisser pour la voir. Autrement dit, vous n'êtes pas encore monté si haut que ça. Mais loin d'une plaisanterie, Dieu prend et montre qu'il prend au sérieux cette unité de projet rendue possible par une unité géographique, une concentration des habitants dans cette vallée et une unité également de langage. Preuve qu'il prend au sérieux, il va leur répondre par les mêmes expressions. Ils avaient dit « Allons, prenons nos blocs de terre, faisons-les cuire et faisons des briques. » Allons, l'homme bientôt va devenir notre égal. » On retrouve des réminiscences du chapitre 3 de la Genèse. La tentation antique, j'ai envie de dire. Et là, le Seigneur va manifester que l'affront de l'humanité qui ose contester sa souveraine autorité, il la prend très au sérieux. Mais la folie humaine ne peut pas entraver la souveraine seigneurie de Dieu. Malgré cette effronterie, Dieu va agir pour disperser et pour envoyer en quelque sorte cette humanité vers les confins du monde. C'est le troisième mouvement du texte d'ailleurs de Babel. Là où l'unité du langage, là où l'unité de lieu, là où l'unité de projet conduisait l'humanité vers une sorte de coalition contre Dieu, le psaume 2 s'en fait d'ailleurs un écho. Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils ? L'ascension divine, qui n'est pas appelée malédiction, devons faire attention, est marquée par un brouillage du langage et une dispersion géographique imposant de facto une limitation et une difficulté aux ambitions autonomistes d'une ligue humaine qui veut construire la cité des hommes contre la cité de Dieu, pour reprendre en quelque sorte des catégories de saint Augustin, cité des hommes, cité de Dieu. Le récit, l'événement, autant pour moi, de Pentecôte, a donc été lu comme un anti-Babel, non pas au sens du retour à une situation d'avant Babel où nous retrouverons l'unité des langues, mais à une situation, nous allons le voir à partir de Acte 2, qui va nous montrer le dépassement de la barrière linguistique. En effet, le récit d'Acte 2 n'efface pas la diversité des langues et des provenances des pèlerins venus à Jérusalem. Ils viennent d'à peu près partout, de tous les coins du monde connu alors. Et la diversité linguistique demeure, puisqu'il est question de chacun qui entend dans sa propre langue. Mais le défi majeur que représentait cette diversité linguistique et cette dispersion géographique est maintenant enjambée, non pas par la volonté humaine de régler le problème, de résoudre la difficulté, mais par l'initiative et par la volonté de Dieu de révéler dans la diversité des langages, donc des cultures, la bonne nouvelle de ces merveilles, l'unique bonne nouvelle pour toutes les nations, pour tous les peuples. L'accent du miracle de la Pentecôte, mes amis, mes frères et sœurs, n'est pas tant le fait que des disciples galiléens, identifiés comme tels du moins, ces hommes ne sont pas tous des galiléens, aient parlé d'autres langues, des langues étrangères, ce qui est en soi miraculeux pour des personnes qui ne possédaient pas ces langues-là. Mais l'accent de Luc porte bien sur le fait que les membres des groupes représentés, dans leur diversité, aient entendu chacun, dans sa langue maternelle, les merveilles de Dieu. Le pasteur théologien Antoine Nuis, qui nous a fait l'amitié de nous visiter il y a quelque temps ici, a écrit, à mon sens à juste titre, « Le vrai miracle de ce jour-là, la vraie marque que l'Esprit, ce n'est pas que des langues étrangères aient été parlées, mais que 3000 personnes se sont converties en écoutant une prédication, expliquant simplement que Jésus de Nazareth était le Messie attendu par Israël. » L'apôtre Paul dit que l'Esprit, qui n'est pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption, permettra au plus grand nombre de dire et d'appeler Dieu « Abba, Père ». L'Esprit nous permet de dépasser l'image d'un Dieu lointain, celui des philosophes et des savants, je me suis dit qu'il y avait Pascal un peu derrière, pour le comprendre comme un Dieu proche qui s'adresse à notre intimité. Un Dieu proche qui s'adresse à notre intimité. Avec la Pentecôte, frères et sœurs, le motif de l'universalité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'Évangile, universalité en ce sens qu'il est pour toutes les nations, en tout lieu. Et bien ce motif-là est ici, en acte 2, particulièrement relié à la notion de l'intelligibilité. C'est-à-dire la possibilité pour chacun, chacune, d'entendre une parole pour soi, d'en comprendre la signification, d'avoir accès à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Se pose alors la question pour nous, moi compris, notre parole en Église, au sein de notre Église, est-elle un blablabla ou une parole intelligible? C'est à dessein que j'utilise l'expression que je n'aime pas, blablabla. Parce que le texte biblique fait d'ailleurs un jeu de mots, et l'auteur le fait, entre Babel, Bebel, trois lettres, et Balal, B-L-L. Comme pour dire que le langage a été tellement brouillé qu'on est dans des babeli babeli et donc dans du blabla pour parler un peu une expression française. Sans aucunement mépriser le don qui est ici donné de pouvoir parler en d'autres langues dont le texte fait mention, nous voyons bien que ce qui est voulu et recherché par Dieu lui-même, ce n'est pas tant que les gens s'étonnent de l'étrangeté de ce qui sort de la bouche des parlants. Ce n'est pas cet étrange. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est que le texte lui-même nous amène à comprendre que notre parole Église est appelée à être une parole qui ouvre les portes du royaume, qui ouvre les intelligences, celles du cœur et de l'esprit, à la compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ. Et que la croix ne peut pas rester un événement mystérique, fermé, clos, incompréhensible sinon par quelques initiés. Mais que la bonne nouvelle de la croix est un message universel que nous devons apprendre à dire en notre temps, dans un langage compréhensible du plus grand nombre. Amen. Mais nos églises sont réputées pour être un peuple qui parle couramment une langue dont vous savez le nom. Je l'ai entendu, hein, Laure. Tu veux bien nous venir en aide? Tu l'avais tout de suite dit. Le patois de Canaan. Ne cherchez pas, ce n'est pas encore entré dans le dictionnaire de l'Académie française. Oui, nous parlons le patois de Canaan. Nous chantons en patois de Canaan. Nous adorons l'agneau immolé qui a versé son sang pour l'expiation de nos péchés. Et parce qu'il est le lion de la tribu de Juda, il a triomphé en associant à son triomphe un peuple de rachetés qui sont sa fiancée, qu'il prépare pour être son épouse, avec laquelle il célébrera les festins des noces de l'agneau. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas compris ça. Amen, c'est clair. C'est clair. On est d'accord ? C'est clair. Et tout ce que je viens de dire ici, nous pouvons dire amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais alors, supposons que parmi nous, et ça peut être le cas ce matin, il y a une personne qui est toujours en train de se dire, mais pourquoi il rigole? Eux, ils comprennent, mais moi, je ne comprends pas. À quoi fait-il allusion? Eh bien, si tu es dans cette situation, sache que c'est précisément pour que tu comprennes à quoi l'Église fait allusion dans son discours, que la Pentecôte, l'Esprit souffle pour nous donner un langage qui soit accessible à tous. Et que tout simplement ce que je viens de dire, c'est le message là, la profession de foi que nous croyons en l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui a donné sa vie par amour pour nous, afin que quiconque croit, quiconque place sa confiance en lui, ne périsse point, mais reçoive le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Pentecôte, frères et sœurs, nous invite à nous décentrer de nous-mêmes. J'aime à le rappeler, parce que tant de fois je vois les églises et l'église du Christ se réduire à elle-même, se bouffer parce que retourner sur elle-même, perdre son dynamisme parce que entraver dans des questions importantes, mais tellement secondaires, parfois tertiaires, sur elle-même. Pentecôte est un grand souffle qui ouvre les portes. Ils étaient enfermés comme dans un cénacle, comme dans un conclave. Et Pentecôte, c'est l'histoire d'une ouverture comme une naissance. Si le tombeau est ouvert, ce n'est pas pour que nous puissions rester enfermés dans nos bâtiments églises, dans nos conclaves intérieurs. Et ce matin, je voulais crier à nos cœurs. L'Esprit souffle pour ouvrir grandes nos portes. Est-ce qu'on peut ouvrir nos portes? Il fait chaud. Est-ce qu'on peut ouvrir nos portes, même symboliquement? Pierre, est-ce que tu peux ouvrir la porte? Est-ce qu'on peut ouvrir les portes? Nathan, est-ce que tu peux ouvrir la porte? Voilà. Ah. Vous voyez, Nathan? Ça, on n'est pas bon, hein, les portes-fenêtres vont être changées. On n'est pas bon là, hein, en cas de porte-panique, on est moyen. Le souffle, mes amis, entendez? Sentez ce petit filet là qui passe? Et je nous entends et je ressens les uns et les autres faire... Ce n'est pas... Le souffle de l'Esprit Saint n'a pas été donné à l'Église pour faire du sensationnel, pour faire du spectaculaire. Écoutez le silence du souffle. Il nous rappelle ce bruit doux, ce murmure au creux de l'oreille du disciple qui sait entendre. Et nous ne pouvons pas l'apprivoiser. Nous ne pouvons pas le domestiquer. Nous ne pouvons pas l'enfermer. Pentecôte est le récit d'une naissance et d'une ouverture. Les portes s'ouvrent. Et le Christ dit, la paix soit avec vous. N'ayez plus peur, ne craignez rien. Je vais vous envoyer vers le monde et je vous ai donné mon esprit afin que vous soyez mes témoins. Témoins dans un monde de mauvaises nouvelles, dans un monde de désolation. Témoins des merveilles de Dieu qui veut consoler. L'Église a besoin dans ce temps d'être connue comme un ministère de consolation, parce que le monde est rempli de désolation. Témoin d'annoncer les merveilles de Dieu. Le souffle ne nous est pas donné pour entrer dans nos débats théologiques. Je sais que peut-être que quelques-uns viendront me trouver après cette prédication pour me dire, alors pasteur, au fait, tu crois ou pas au baptême du Saint-Esprit? J'y crois de tout mon cœur. J'y crois de tout mon cœur. D'autres viendront, alors pasteur, tu crois vraiment qu'ils ont parlé d'autres langues? J'y crois de tout mon cœur. Alors pasteur, crois-tu qu'on peut parler en langue? Oui, de tout mon cœur. Et le plus souvent dans ta chambre, quand il n'y a pas d'interprétation. Et au milieu de tes frères et sœurs, de tout mon cœur j'y crois, à condition, comme l'Écriture nous le dit, qu'il y ait interprétation. Et pourquoi l'Écriture nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14? Afin que s'il y en a parmi vous quelques-uns qui ne comprennent pas la vie de l'Esprit, qu'ils puissent entendre ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église, et qu'au jour où le Christ le visitera, qu'ils puissent croire. Mais pasteur, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus chanter en langue? Oh, l'Esprit fait comme il veut dans son Église. Je ne suis pas là pour dire on peut plus, on ne peut pas. Mon rôle n'est pas de permettre ou de ne pas permettre. Mais à minima, de questionner, d'éveiller. Sommes-nous là dans la promotion de quelque chose qui nourrisse l'intelligence du cœur et qui permette à chacun de nous, jeunes et vieux, hommes et femmes, de réaliser ce que le Christ a fait une fois pour toutes, afin que nous ne soyons plus séparés sur la base de nos identités de genre, comme on dit aujourd'hui, ou sexuelles. Parce que c'est précisément cette parole que tu nous as rappelée, Vincent, en introduction, puisque la prédication de Pierre va nous rappeler la promesse de Joël, un autre événement auquel il fait référence. Vos fils et vos filles le Christ et le souffle qu'il vive, qu'il souffle sur nous, refuse la partition clivante qui oppose hommes et femmes. Il dit que nos fils et nos filles, des hommes et des femmes, seront capacités par le même Esprit de Dieu, non pas pour faire seulement l'école du dimanche, en ce qui concerne surtout nos sœurs. Il n'est pas dit ça. Il n'est pas dit que l'Esprit retombera sur eux pour s'occuper que de l'école de dimanche. Il n'est pas dit que l'Esprit tombera sur eux pour ne parler qu'au groupe de dames. Il n'est pas dit que l'Esprit tombera sur eux pour ne jamais prêcher, jamais enseigner. Et dans nos facultés de théologie qui forment des pasteurs, en tout cas un certain nombre d'entre elles, seraient bien en difficulté si certaines n'avaient pas entendu un appel à se lever et à étudier et à devenir pasteur théologienne, enseignant d'autres. Mais il dit clairement, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire parleront de la part de Dieu. Seront capables de donner une parole de la part de Dieu. Mais cette parole prend des formes diverses et variées, et nous le voyons tout au long de la Bible. Parole de connaissance, parole prophétique, parole d'exhortation, parole de consolation, parole d'encouragement, parole d'intercession, parole d'enseignement. Fils et filles, je vais dire à une jeune fille ici ce matin, enfin, libère ta bouche. Je ne connais pas qui tu es, mais j'ai la pensée de parler pour une fille, au moins. Qu'un jour de cette église, le Seigneur appelle un ministère, t'envoie à prendre pour transmettre et ne refuse pas cet appel parce que tu n'as pas peut-être encore vu un pasteur, femme prêchée de la chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens et vos vieillards, eux aussi seront capacités. Je refuse le jeunisme de notre temps. Je refuse la séparation des générations de notre temps. Et je questionne notre assemblée sur les partitions générationnelles. J'en comprends l'intérêt. Groupe Horizon, groupe des enfants, groupe de jeunes, groupe des 18 et 30, groupe des 30 et 35, groupe d'hommes, groupe de femmes, c'est là. Mais mon cœur crie avec celui de mon frère Loïc, coordinateur des groupes de maison, pour que nos groupes de maison soient des véritables lieux intergénérationnels, par exemple. La richesse que j'ai besoin de recevoir quand je lis l'Écriture avec un aîné, savoir par où il est passé, comment le Seigneur lui a parlé. Qu'est-ce qu'il a appris? Et lui aussi de pouvoir recevoir ce qu'un jeune, comment il voit le monde aujourd'hui, comment il entend Dieu lui parler, à quel défi il est confronté. Vos jeunes gens et vos vieillards recevront des songes. L'intergénérationnel est le souffle de la Pentecôte. Il n'y a pas deux communautés. Il n'y a pas une église pour jeunes et une église pour vieux. Il n'y a plus une église pour hommes et une église pour femmes. Mais le message de la Pentecôte, c'est que le Dieu unique, Père, Fils et Esprit Saint, nous donne l'unique esprit de l'église pour former un seul corps, esprit, qui est l'église de Jésus-Christ. Et alors, nous vivrons ce que l'Ancien Testament annonçait déjà avec joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Le vieux peut-être saluera de manière sérieuse et le jeune fera check. Les jeunes filles danseront de joie. Oui, une communauté de la joie dans un monde triste, dans un monde morbide. Une communauté de l'intergénérationnel dans une société de fractures entre les générations. Voilà la bonne nouvelle de Pentecôte, mes frères et sœurs, que moi j'avais à cœur de partager avec nous. Je voudrais conclure avec quelques mots. Je les emprunte à nouveau un article d'Antoine Nuis qui parle du patriarche maronite Azim, que je ne connais pas, qui a écrit ceci. Alors, les maronites, peut-être, vous connaissez. J'ai rencontré des Libanais, vous savez, c'est Proche-Orient, il y a des toutes premières communautés chrétiennes. Hein. Donc, bon, je ne les connais pas de manière profonde, mais voilà. Et ce patriarche a dit ces mots, je pense qu'ils sont justes. Sans l'Esprit Saint, le Christ reste dans le passé. L'Évangile, une simple lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. La prière personnelle, un monologue stérile. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. En revanche, avec l'Esprit Saint, le Christ ressuscité est là. Et son évangile est vraiment puissance de vie. L'Église est communion. L'autorité est service libérateur. La mission, une Pentecôte. En un mot, d'un pauvre arbuste dans le désert, l'Esprit du Seigneur fait un buisson ardent, capable d'enflammer de proche en proche tout l'univers. Amen.